Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre, nous sommes devant Dieu, nous sommes conscients que Dieu peut, que Dieu veut nous dire quelque chose. Quand les sept églises dans l'Apocalypse se sont mentionnées, il est dit ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut bien vouloir dire à notre assemblée? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut-il bien vouloir me dire? Alors nous allons faire quelques lectures. Je vous encourage à les noter parce que je ne les développe pas toutes, mais je pense que celles que je reçois sont utiles pour que vous les méditiez. Voyez par exemple quelqu'un qui murmure. Imaginons que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui murmure, tout le temps en train de murmurer. Mais c'est peut-être bien que vous lisiez le livre de l'Exode et de regarder ce que Dieu pense du murmure. Vous voyez, ça c'est... Vous pouvez vous-même dire, mais c'est vrai, je suis tout le temps en train de râler, de murmurer. Tiens, qu'est-ce que Dieu pense du murmure? Eh bien, lisez, enfin, pas lisez, méditez le livre de l'Exode. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11, Dieu parle et il plaque les choses par rapport à, d'une manière générale. Regardez bien. Joseph l'avait certainement très bien compris, cette affaire-là. Deutéronome, chapitre 11, verset 26. Joseph, le patriarche, pas le mari de Marie. Deutéronome, chapitre 11, verset 26. Ce sont des textes, franchement, je le répète parce que je suis sûr que souvent nous passons à côté. Ce matin, moi, je suis resté bloqué, j'ai lu ma parole, je suis resté peut-être bloqué une heure sur un verset. Qui a rien à voir à la prédication, c'était pour moi. Des versets que je connais par cœur, les frères. Mais je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'on a compris le message qu'il voulait communiquer. Deutéronome chapitre 11, verset 26. « Vois, je mets aujourd'hui. » Le mot « aujourd'hui » revient souvent dans la Bible pour nous montrer que Dieu, eh bien, il est capable de tout effacer et nous donner de tout recommencer, que son nom soit béni. « Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie, que je vous prescris en ce jour. Donc, Dieu propose deux choses. C'est comme ça. La liberté, elle repose là-dessus. Que quelqu'un ne vienne pas me dire, mais comment ça se fait? Écoutez-moi, si vous voulez être libre, il faut que vous ayez le choix, la liberté de choisir. Un petit peu plus loin, dans Deutéronome, au chapitre 30, c'est redit d'une manière différente. Dieu sait comment nous fonctionnons. Et nous avons besoin d'entendre des choses de façon différente parfois. Là, c'est redit d'une autre façon. Donc, Deutéronome, chapitre 30, verset 11. C'est présenté avec des solutions. Que nous ne nous compliquions pas l'existence. Que nous comprenions que les choses, elles sont dans notre cœur. Deutéronome 30, verset 11. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Regardez bien. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Retenez bien, mes frères et sœurs, cette parole. La bénédiction, elle est dans votre bouche et surtout dans votre cœur. Afin que tu la mettes en pratique, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Là, il y a plusieurs précisions. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Plusieurs fois, justement, on est dans le Deutéronome, je voulais aller dans le Nouveau Testament, mais regardez par exemple Deutéronome 6, vous retrouvez souvent cette parole. C'est important, frères et sœurs, que vous compreniez que la prédication, ce n'est pas pour la personne qui est à côté de vous, c'est pour vous. Des fois, on a tendance à dire, ah, si ma fille était là, si ma belle-mère était là. Les frères, vous êtes tous d'accord. Hein? Oh, si ma belle-mère avait été là, c'était pour elle. Non. Si Dieu avait voulu parler à votre belle-mère, eh bien, il aurait parlé quand elle est là. Mes frères, écoutez-moi bien. Écoute, regardez, Deutéronome 6, verset 4. Écoute. Même les 10 commandements, mais c'est dans le... Mais regardez, 5, c'est le 5. Vous avez vu comment se les 10 commandements? Chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute. Avant de comprendre les commandements, je crois qu'il vaut mieux écouter. Écoute-toi. Écoute, on pourrait lire encore Deutéronome 9. On le voit souvent parce que ça m'est venu à l'esprit cette semaine, parce que j'ai lu le Deutéronome cette semaine. Deutéronome 9, on le voit quand Dieu commence des choses importantes, il commence avec cette locution, écoute. Écoute. Est-ce que vous voulez écouter ce matin la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez entendre un sermon par habitude? Ou est-ce que vous avez envie de dire, mais Seigneur, mais je veux écouter moi. Qu'est-ce que tu as à me dire pour que je comprenne ce qu'est la vie? Ce qu'est le bien? Oui, mais non, mais monsieur, vous allez où ce matin? Je sais très bien ce qu'est le bien. Je sais très bien ce qu'est le mal. Je sais très bien ce qu'est la bénédiction. Je sais très bien comment éviter la malédiction. Vous êtes sûr que nous savons ces choses? Alors nous allons aller dans le Nouveau Testament pour continuer, d'une manière plus dans la grâce, à voir ce sujet. Galates chapitre 5, verset 7. Cette parole vient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, à savoir le fait, Galates chapitre 6, verset 7, les cinq premiers mots nous indiquent que nous pouvons nous tromper. Est-ce que vous le savez que nous pouvons nous tromper? Vous aimez que les autres vous trompent? Non, vous n'aimez pas quand quelqu'un vous a trompé, etc. Vous ne le supportez pas, vous dites, oh, il m'a dit ça, c'est pas vrai, il a cherché à me balader, etc. On ne supporte pas quand quelqu'un nous trahit. Mais nous ne nous rendons pas compte le nombre de fois où nous nous trahissons nous-mêmes, où nous nous trompons nous-mêmes. Par de faux raisonnements, comme dit l'apôtre Jacques. Là, dans Galates, chapitre 6, verset 7, Paul dit ceci. Ne vous y trompez pas. Chapitre 6, oui, verset 7. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Vous entendez? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une loi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Je le répète, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Texte qui vaut la peine certainement d'être remédité, mais on va aller dans l'épître de Jacques, pour garder la Galate parce qu'on y reviendra. Dans l'épître de Jacques, à trois reprises, dans le chapitre 1er, il est indiqué que nous pouvons nous tromper. Et ne nous imaginons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Vous vous êtes trompés, je me suis trompé. Nous nous sommes tous trompés par de faux raisonnement, comme dit le verset 22, mais on va lire le verset 16, pour que nous comprenions bien que la grâce, elle vient d'où la grâce? D'où elle vient la grâce? Bien sûr que nous pouvons communiquer des paroles de grâce, etc., nous pouvons faire grâce aux autres, mais la grâce avec un G majuscule, elle vient de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce, excellente en plus, et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous pouvez dire amen à ça ou non ? Verset 22, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. » C'est ce qu'on fait souvent. On écoute, on veut des belles prédications, mais ça, on ne change pas. Si on ne change pas, c'est qu'on doit se remettre en question. « En vous trompant, vous-même, par de faux raisonnements. » Donc, vous voyez, c'est écrit, c'est Dieu qui le dit. Nous pouvons nous illusionner, nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Et au verset 26, il faudra méditer tout le chapitre, hein. Mais au verset 26, également, il est écrit, si quelqu'un croit être religieux, c'est un mot aujourd'hui qui est très très mal compris, mais ça veut dire relié à Dieu en vérité. Religion, ça vient de mot latin qui signifie relié à Dieu. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alors voilà, je vous présente le tableau. Nous avons un Dieu qui dit, voilà, je mets aujourd'hui, là c'est le summum de la grâce, je mets encore aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu choisis. Sache que tu peux te tromper. Tu peux te tromper, tu peux t'illusionner. On le voit souvent, l'église de Laodicée qui caractérise la dernière église vit dans l'illusion. Et la Bible dit que la sécurité des insensés les perd. Ça veut dire que, quand nous nous trompons nous-mêmes, par exemple, nous pensons que la grâce de Dieu, cette telle grâce, ne nous a pas été accordée, je ne comprends pas, pourquoi on ne m'a pas remarqué ? Pourquoi on ne m'a pas demandé à moi ? Mes frères et sœurs, mes frères, si Dieu demain veut que vous soyez sur une estrade, vous y serez. Vous entendez ? Dieu savait le jour où un jeune homme de 30 ans juif deviendrait premier ministre en Égypte, c'est un truc de fou. 30 ans, il avait. Quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Toute grâce vient de lui. C'est vrai, il faut le préciser. C'est vrai qu'on peut souffrir à cause des autres. Oui ou non ? Est-ce qu'une famille, une femme, des enfants peuvent souffrir à cause du fait que le mari est infidèle ? Infidèle, je ne parle pas que moralement, infidèle financièrement, parce qu'un mari est ivrogne, etc. Est-ce qu'une femme peut souffrir ? Est-ce qu'on peut souffrir à cause des autres ? Oui, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais c'est pour vous expliquer que j'ai bien réfléchi à tout ce que je vais vous dire. Il y a des choses qui dépendent également des autres. Mais croyez-moi, à la fin, c'est Dieu qui décide. À la fin, c'est Dieu qui est intervenu. Vous le croyez, ça ? Que c'est Dieu qui tient tout dans sa main. On l'a chanté, très bien. Dieu règne. Vous avez remarqué que chaque meneur de chant a un thème chaque fois quand il fait chanter. Vous l'avez remarqué ? Vous l'avez remarqué. Chaque meneur de chant présente les chants, il se tient devant Dieu, et il y a un thème qui ressort. Ce matin, c'était « Dieu règne ». Vous vous souvenez ? Dieu règne. Mais Dieu ne règne pas sur le péché. Dieu règne sur tout, sauf sur le péché. Le péché, on en souffre. On en souffre longtemps. Longtemps, si on ne veut pas le régler. C'est écrit dans la Bible ? Est-ce que c'est écrit ça ? C'est écrit où ? Que le péché, on en souffre longtemps. Comment ? Ésaïe 64, nous en souffrons longtemps. Le péché, c'est comme ça. Tant qu'on ne le règle pas, on peut en souffrir 30 secondes. On peut en souffrir 30 ans. Il faut le régler. On peut se tromper. On peut tromper les gens parce qu'on n'est pas toujours droit. On peut se tromper soi-même, c'est vraiment dommage. On peut jouer la comédie aux autres. Est-ce qu'on peut jouer la comédie ? Ben oui, on peut jouer la comédie. On peut faire la comédie auprès des gens que l'on côtoie. Est-ce qu'un homme peut faire la comédie auprès de sa femme ? Eh bien sûr, on peut jouer la comédie, on peut être hypocrite, etc., etc. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le récolte. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, qu'est-ce que vous diriez d'un... Vous allez me trouver l'image simplette, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que vous diriez d'un agriculteur ? Vous le verriez semer et vous lui diriez, « Monsieur, qu'est-ce que vous semez ?» Si vous disiez, « je sème des chardons. » Vous savez ce que c'est ces chardons, ces épines-là qui poussent vite en plus, parce que les épines, ça pousse vite, hein. Qu'est-ce que vous diriez d'un agriculteur qui sème des chardons ? Qu'est-ce que vous lui diriez dans le creux de l'oreille ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? vous lui diriez, écoute, tu dois avoir un problème. Oui ou non? Sérieusement. Mais vous allez me dire, mais monsieur Gault, ça arrivera jamais. Je pense que ça arrivera jamais. Si vous voyez un jour quelqu'un faire ça, prévenez le psychologue du coin. Mes frères et sœurs, combien de fois, écoutez bien, sans nous en rendre compte, nous avons semé, je ne vais pas dire qu'on a semé des épines, mais on a semé parmi les épines, pour reprendre une expression biblique de Jésus. Parce que si l'image est risible, la réalité spirituelle ne l'est pas. Parce que nous pouvons semer parmi les épines. Et le Seigneur est catégorique, il met devant nous la bénédiction. Je dois savoir ce qu'est le bien et la bénédiction. Je dois savoir ce qu'est le mal et la malédiction, c'est la même chose. Je dois le savoir. Qu'est-ce que c'est qui est mal? Qu'est-ce que c'est qui est bien? Nous avons lu dans Galates, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est écrit. Est-ce qu'on peut le faire? Mais bien sûr. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que vous avez le sentiment de faire le bien à votre... C'est les gens que vous côtoyez le plus. Franchement, dans une maison, les enfants, les adolescents, est-ce que vous faites du bien à vos parents? Il y a des adolescents parmi nous? Des enfants, enfin des ados, des... Est-ce que vous pouvez répondre, les enfants, les ados, vous qui écouterez cette prédication? Et parce que vous pouvez dire, ouais, mes parents, j'ai pas choisi mes parents, vous savez, les ados. J'ai pas choisi mes parents, ça sera à faire, je prendrai. Mais si vous aviez d'autres parents, vous seriez 10 fois plus malheureux. Vous croyez que Dieu, il sait pas les parents que vous aviez besoin? Franchement. Si Joseph avait dit, ouais, mes frères, voyez? Mes frères. Moi, j'ai lu cette histoire la semaine dernière, cette semaine, l'histoire de Judas, de Joseph. Judas. Vous avez vu Judas, le frère aîné de Joseph? Sérieusement. Judas, c'est pas Judas Iscariote. Je parle de Judas, le patriarche. Judas, c'est l'ascendant de Jésus. Sans parole. Ce qu'il a fait. Sérieusement, ça aurait été nous, on aurait dit, bon, Judas, on le raye. Mais si on avait rayé Judas de la liste, Jésus ne serait pas venu. Et la promesse ne lui a pas été enlevée parce qu'il était, il était en difficulté. Heureusement que Dieu s'appelle le réparateur des brèches. Vraiment. Alors nous sommes là, nous devons faire une confiance absolue à Dieu. Si vous n'avez pas confiance à Dieu, réglez ce problème. Si vous n'avez pas, je ne dis pas de croire en Dieu. Si vous êtes là, c'est que vous croyez en Dieu, ça paraît évident. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle d'une confiance aveugle. Dieu ne se trompe jamais. Son intelligence n'a pas de limite. Quand je vois des chrétiens de 15 ans de conversion qui me disent « Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu a créé l'enfer. » Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a créé l'enfer. Mais moi non plus. Mais ses jugements sont justes. Mais ce n'est pas écrit quelque part que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ce n'est pas écrit. Mais vous croyez. Mais nous, on a des choix impulsifs. On a des choix irréfléchis. Mais vous voyez Dieu en train de dire « Ah, j'ai fait cette promesse, je n'aurais pas dû la faire. » Nous, on est malheureux des fois. Combien de fois on a dit « Si j'avais su, je me serais tué. » Ça vous est jamais arrivé de dire ça? Si j'avais su. Mais Dieu n'a jamais eu besoin de dire ça. Si Dieu a tout ce que Dieu a créé est parfait, ses œuvres sont parfaites, ses plans sont excellents, tout ce que Dieu a fait est intelligent. On peut lui faire confiance. Et quand Dieu dit « ne te lasse pas de faire le bien », on devrait dire « mais moi je vais m'attaquer à ça ». C'est quand même triste ou net de voir la quantité de chrétiens qui ne se rendent même pas compte qu'ils font le mal, qu'ils se font mal et qu'ils font du mal à ceux qu'ils côtoient. On devrait quand même se poser les questions, mais quels sont les comportements que je n'ai pas encore compris? Moi, j'étais longtemps, je l'ai déjà dit, encore, je ne vais pas revenir dessus, mais c'était ici, donc ça faisait 15 ans, 16 ans, 17 ans que j'étais pasteur. Non, mais c'est une honte. Et je m'irritais pour des situations, tout ça. Et quand on est irrité, qu'est-ce qu'on fait? On irrite les gens
qui sont là autour.
Et on rentre à la maison et on fait un bien fou à ceux que l'on aime. Oui ou non? Est-ce que vous me suivez? Il a fallu que ma femme, mes enfants, me parlent d'une manière sérieuse, presque sévère, pour que je me rende compte que je leur faisais du mal. Donc on doit se poser la question, puisque la Bible dit ne nous lassons pas de faire du bien, parce que si c'est écrit nous ne lassons pas, c'est parce que des fois il y a des déceptions qui pourraient faire qu'on a envie de se lasser. Donc je ne me lasserai pas de faire le bien, ne le cherchez pas, 1 Thessaloniciens 5, 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. D'un côté, je dois chercher à faire du bien, de l'autre, je dois m'abstenir de faire du mal. Et nous devons, parce que dans nos assemblées, nous avons d'énormes qualités. Je parle, vous savez, il y a le corps de Christ, il y a les assemblées de Dieu, dans lesquelles nous avons évolué, puisque nous y sommes, et nous avons appris au niveau de la doctrine de très très bonnes choses. Pourquoi ? Parce que dans le mouvement, nous avons vraiment inculqué une saine doctrine. Mais nous avons aussi des travers. Et nous avons été tellement spirituels que nous avons souvent diabolisé des comportements. Oui ou non ? C'est le diable. C'est le diable. Quand David a été interpellé par Nathan au bout d'un an de souffrance sévère, David n'a pas dit à Nathan, écoute Nathan, ça ne te regarde pas, moi je suis le roi d'Israël, je fais ce que je veux. Parce que des rois, il y en a parmi nous, je vous le dis, qui font ce qu'ils veulent et qui n'écoutent rien de la parole. Je le vois souvent, des gens après des prédications qui me disent, monsieur Gou, je ne suis pas d'accord avec vous. Je leur dis, mais ce n'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord, c'est avec Dieu. Moi, ce n'est pas grave, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi... Ça, si sur des choses humaines, ça n'a aucune importance. Mais quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, et si je vous ai dit ce que Dieu dit, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Et nous devons comprendre ces choses. Et il y a des choses qui sont charnelles, qui sont humaines. Et mes frères et sœurs, si nous voulons commencer à discerner le bien du mal, la bénédiction de la malédiction, il faut que nous soyons honnêtes. Tout à l'heure, avant que le culte ne commence, avec ceux qui étaient là, nous avons introduit le moment de prière avec cette prière de David qui dit à Dieu, « Guéris mon âme, car j'ai péché. » Et David a toujours été restauré, malgré ses imperfections. Il s'est toujours ressaisi, toujours. Et quand on lui a dit, « T'as péché ?», il a dit à Dieu, dans le psaume 51, « J'ai péché, contre toi seul. » Il n'a pas dit, c'est la faute du diable. Et puis cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait à se baigner, toute nue dans sa piscine, etc. C'est trop facile. Et j'aimerais, mes frères et sœurs, que vous compreniez bien ce que je vais vous dire. Même si mon introduction était un peu longue, il faut que nous comprenions qu'il y a des choses qui sont charnelles, qui sont humaines, et que nous devons nous en dépouiller, que nous devons les abandonner, que nous devons les faire mourir, que nous devons les crucifier, comme le Seigneur le dit dans sa parole. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a appelés, ça fait partie de notre vocation, Dieu nous a appelés à bénir. Vous le croyez, ça, que quand il est dit, vous avez été bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Bénissez, quelqu'un peut me dire la suite ? Bénissez, afin d'hériter la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. On va le lire pour les gens qui sont pas trop habitués. C'est dans 1 Pierre, c'est juste après Jacques. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir ? Même comme Jonathan a très bien introduit le culte, sincèrement, quand il a parlé du psaume, vous rappelez le psaume qu'il a utilisé ? C'est le psaume ? Le psaume 2, à savoir que pourquoi les nations se liguent, pourquoi les gens sont dans la confusion, et le texte termine en disant « Celui qui siège dans les cieux rit ». Ça veut dire que le Seigneur n'est impressionné par rien du tout. Dieu règne et il veut bénir. Il bénit. Le monde choisit la malédiction, c'est son affaire. Mais les chrétiens, franchement les chrétiens, nous pourrions quand même nous intéresser à la bénédiction. Et Dieu dit, 1 Pierre 3, verset 9, mes frères, vraiment je voudrais que Si vous n'avez pas compris ce qu'est le mal, si vous faites du mal aux gens, si vous faites du mal aux gens que vous côtoyez, aux gens que vous aimez, écoutez cette prédication. Je ne veux pas être long, mais écoutez pour que ça devienne un réflexe pour régler les comportements qui ne sont pas bons. 1 Pierre 3, verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Quand on est appelé à quelque chose, ça fait partie de la vocation. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes appelés, c'est notre vocation de bénir. Afin de quoi ? Afin d'hériter la bénédiction. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que vraiment vous voulez être béni ? Est-ce que c'est votre pasteur ? Est-ce que c'est votre conjoint ? Est-ce que ce sont vos enfants ? Est-ce que c'est votre patron ? Est-ce que c'est la société, le premier ministre, le gilet jaune, j'en sais rien ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous empêcher d'être béni ? Non. Des frères, des situations, votre conjoint, vos enfants, tout cela, Dieu peut l'utiliser pour vous former, comme Dieu a éprouvé Joseph. Ses frères ont failli même le tuer. Et vous regarderez qui est l'instigateur de cette super démarche. Dieu l'a gardé. Et comme nous l'avons entendu dans le don spirituel qui était très bien prononcé, Dieu a changé le mal en bien. Dieu peut changer le mal en bien. Maintenant, aujourd'hui. Bénissez. Je dois bénir. Bénir, ça veut dire prier. Quand vous priez pour des gens, vous les bénissez. Quand vous dites du bien des gens, vous les bénissez. Quand vous leur faites du bien, vous les bénissez, etc. Et il y a des choses qui enlèvent la bénédiction. Alors on pourrait commencer, j'ai pensé à ce texte, c'est dans Ézéchiel au chapitre 8. Parce que moi c'est un texte qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Je me suis pensé que ce n'était pas possible de faire un truc pareil. Et pourtant, ça a été fait. Je peux vous dire que l'ennemi, il en a eu des ruses pour que Dieu s'éloigne du temple. Il s'est tellement éloigné du temple que qu'est-ce qui s'est passé pour le temple ? Il a été détruit. Regardez avec moi dans Ézéchiel au chapitre 8. Je voudrais que vous le notiez ce texte, parce que ce sont des textes, vous l'avez déjà lu, mais quand même. Regardez, Ézéchiel, on va lire du verset 1 au verset 6. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas. C'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. L'airain, pour ceux qui ignorent, c'est le cuivre. Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines. Oui, il y a une révélation dans ce qu'on va voir. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion. Regardez bien la suite. Où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Voici, la gloire de Dieu était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Mais elle ne va pas rester longtemps. Hein. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Amen. Amen au texte. Sérieusement, soyons honnêtes, tu te dis, mais il fallait y penser. Les anciens, les responsables, les pasteurs, pour des raisons ça vaudrait la peine d'en parler, mais ce n'est pas le moment. On réussit à introduire dans le temple, alors que le Seigneur avait été catégorique avec ce qu'il fallait dans le temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, c'était très simple. Une idole de la jalousie dans le temple. Vous avez déjà lu ce texte ? Franchement, ça vous fait penser à quoi cette affaire ? Une idole de la jalousie dans la maison du Seigneur. Moi, la première fois que j'ai médité ce texte, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte ? Si on mettait une idole, on essaie de le faire. une idole et on l'appelle l'idole de la jalousie. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous diriez si, de ma propre initiative, en tant que responsable de l'Église, soutenu par les anciens, je mettais l'idole de la jalousie dans l'Église ? Vous diriez, non, mais là, ça commence à craindre. Mais soyons honnêtes. La jalousie, est-ce que nous la voyons dans les églises primitives ? Oui. Demandez aux Corinthiens s'il n'y avait pas déjà de la jalousie dans les églises, au premier siècle. Alors, soyons intelligents. Est-ce que ça peut arriver quand on est jeune chrétien, parce que je pense aussi qu'il y a une progression. Quand on se convertit, il y a plein de choses qu'on arrête. Qu'est-ce qu'on arrête au début quand on se convertit ? Des choses grossières qu'on voit de suite. Vous vous rappelez la première chose que vous avez arrêtée quand vous vous êtes converti ? Allez, dites-moi. La cigarette. Oui, moi, c'est une des premières choses que j'ai arrêtées. Parce que c'est une dépendance qui nous nuisible. Qu'est-ce que vous avez arrêté en premier ? Comment ? Les gros mots. Voilà, vulgarité. Est-ce que quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit va rester grossier ? Ben non. Si vous êtes resté grossier, c'est que votre conversion, elle n'est pas complète. On n'aura pas le temps de le voir, mais je voulais en parler. Ou que votre repentance est vraiment superficielle. Le tabac, la grossièreté, qu'est-ce que vous avez arrêté en premier ? Le mensonge, oui. Moi, je pense que c'est la première chose que j'ai faite. Etc. Vous êtes d'accord ? Et au fur et à mesure, des choses importantes ou moins importantes, etc. Et au bout de quelques mois, au bout de quelques années, soyons pas trop exigeants. Par exemple, nous devons faire face à certains péchés, comme par exemple la jalousie. Vous êtes d'accord avec moi toujours ? Est-ce que la Bible parle de la jalousie ? Comme quoi ? Comme étant quelque chose de diabolique ou comme quelque chose de charnel ? De charnel. On va le lire, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit pratique. Parce que commencer une année avec des prophéties, je ne parle pas des prophéties, avec des promesses, en veux-tu, en voilà, qui nous émoustillent le temps d'un culte et qui ne règle en rien le comportement qui amènera cette bénédiction, ça ne sert à rien. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Par exemple, dans Galates. On l'a lu tout à l'heure, c'est pour ça que je vous avais demandé de rester dans Galates. Galates chapitre 5. Il y a cette loi. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a des similitudes quand même. Je mets devant toi la vie et la mort. Vous êtes d'accord ? La bénédiction et la malédiction. Quelqu'un pourrait dire, pas ici, je sais, ben je sais comment ça marche. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais monsieur Gossa, c'est l'Ancien Testament. Mais quand il est dit dans le Nouveau Testament, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Sérieusement, est-ce que ce n'est pas la même chose ? Mais bien sûr que c'est la même chose. Galates chapitre 5, verset 19. Regardez mes frères et sœurs. C'est important. Si nous voulons hériter la bénédiction, si nous voulons faire le bien en 2019, je veux être une source de bénédiction et pas de malédiction. Galates chapitre 5, verset 19. Or les œuvres de la chair, c'est charnel. C'est pas forcément diabolique. Parce que c'est bizarre comment certaines personnes... Ah mais moi c'est mon caractère, hein. C'est mon caractère, et puis c'est diabolique, c'est le diable. Non, mais moi, ça me fait pas rire, je vous le dis. Parce que l'Église, beaucoup d'Églises sont devenues charnelles, superficielles. Il n'y a pas eu cette approbation de Dieu, parce qu'on aurait dû avoir cette honnêteté de dire, ça, c'est charnel, c'est à moi, à m'en dépêtrer. Il le dit au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, il n'est pas dit ceux qui sont pentecôtistes ou ceux qui vont à l'Église le dimanche, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, c'est-à-dire les relations sexuelles en dehors du mariage, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, etc. Nous restons sur le domaine de la jalousie. C'est charnel. Si nous sommes charnels, le verset 21 le dit, nous n'héritons pas les choses du royaume. Même si nous n'en perdons pas forcément le salut, c'est compliqué cette affaire. On ne perd pas le salut au début. Mais la jalousie peut nous amener très loin. si on prend un des exemples les plus terribles, c'est Saül. Saül était choisi, c'était l'homme le plus humble du pays. Le plus humble. Et Dieu l'a choisi pour être le roi d'Israël, parce que c'était celui qui correspondait. Et voilà que quelques années ont passé, les premières années ça a été, et puis après des situations compliquées se sont présentées, et voilà que Dieu a choisi un jeune homme qui s'est présenté sur le champ de bataille, etc. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque David revenait des batailles, les femmes chantaient. Et elles ont chanté des cantiques qui n'étaient peut-être pas très bien composés. Enfin, pour Saül. Et Saül a été jaloux de quelqu'un qui avait donné la bénédiction sur son pays. Quand on commence à être jaloux des gens qui font du bien, ça devient inquiétant. Il a commencé par la jalousie. Il aurait pu le régler. Comme tout d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il n'a pas voulu le régler. Pourquoi ? Parce que c'était le roi. J'insiste là-dessus. Parce que beaucoup de chrétiens sont des petits rois, des roitelets. Bon, excusez-moi, je fais un peu d'humour parce que c'est sérieux. Des petits rois. Ils font ce qu'ils veulent. Si le Seigneur vous parle ce matin et que vous dites, mais c'est vrai, je suis jaloux. Moi, on aurait dû me choisir, mais moi, j'aurais dû monter sur l'estrade à la place de monsieur Untel. Il n'y voit rien, monsieur Go. Je vais vous dire. Je le répète. Si Dieu veut que vous soyez là dans 3 mois le dimanche, vous y serez. Croyez-moi. La jalousie, c'est quelque chose de terrible. Il ne l'a pas réglé et il a fini quelques années plus tard, des décennies après, en se suicidant. Et il a donné l'exemple à son porteur d'armes qui a eu l'intelligence de faire la même chose. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou non, plus on a des responsabilités, plus on déteint sur les autres. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point nous déteignons sur nos enfants, à quel point nous pouvons déteindre en bien ou en mal. Et nous devrions nous poser la question, mais c'est vrai, la jalousie, ne dites pas, mais non, mais ça c'est, je suis jaloux, et ça, je le justifie. Moi je bénis Dieu qu'après ma conversion, j'ai été jaloux d'une personne. Je le savais en plus. C'était un inconverti en plus. Des fois, on est bête, vraiment. Vous me gardez ? Oui, et je bénis Dieu parce que c'est bien à des moments de vivre certaines épreuves parce qu'on ne juge pas les gens après quand ils les traversent. Ça, je crois que Dieu le permet par moi, parfois. Bon. C'était ridicule en plus. Mais pourquoi je vous dis ça ? Saül ne l'a pas géré. Il en est arrivé à être tellement furieux, un psychopathe comme on dit aujourd'hui, qu'il en a fini par tuer 85 pasteurs. La jalousie, ça vous détruit. Et ça détruit les gens qui sont à côté de vous. Et il faut savoir comprendre les choses. Comment ça fonctionne ? Comment le problème... On n'est pas des psychologues, mais c'est écrit dans la Bible. Regardez avec moi dans l'épître de Jacques. Je voudrais que nous comprenions bien des choses simples, mes frères et sœurs. Parce que les comportements mauvais, le mal... Il faut s'abstenir de le faire. Je te demande pardon, Seigneur. Je vais faire mourir la jalousie. Je vais m'accepter comme je suis. Est-ce que vous vous aimez comme vous êtes ? Tiens donc. Est-ce que c'est biblique, ça ? Est-ce qu'il y a besoin d'un psychologue super confirmé ? Ou est-ce qu'une parole du Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Il n'y a qu'une personne comme vous. Il n'y a qu'une personne comme vous. C'est bien ? Dans le ciel, il ne vous ressemblerait à personne. Des fois, moi j'ai vu des petites vidéos, vous savez, où dans le ciel, tout le monde est pareil. Tout le monde. C'est vraiment pas biblique du tout. On sera tous différents. Il n'y aura qu'un monsieur blanc. Le père, le grand-père, le fils à lui, Alain, et Jonathan, le petit-fils. Et l'arrière-petit-fils, je ne sais pas où il est là. On sera tous différents. Il faut s'aimer soi-même. Alors regardez certaines choses. Comment ça commence ? Je sais que je l'ai peut-être déjà expliqué, mais pas assez bien. Dans l'épître de Jacques, là où il nous est dit justement que nous ne devons pas nous tromper, c'est par rapport au problème de la tentation qui se termine justement par la mort. Comme c'est arrivé à Saül, qui n'a pas géré, ou comme c'est arrivé à, comment il s'appelle le frère d'Abel, Caïn. Regardez avec moi, je voudrais qu'on va prendre le temps, les semaines qu'il faudra, pour aborder ce problème de comportement charnel, le bien et le mal. Jacques, chapitre 1er, verset 13. Non, on va, le verset 12. Le verset 12 qui nous parle de la tentation. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de la tentation? Je ne sais pas comment vous vous débattez avec les tentations, mais regardez quand même. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé. Donc la tentation, c'est une épreuve. J'ai l'impression de former des pasteurs, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire les choses de manière intelligente. Et si Jésus dit « Heureux celui qui supporte la tentation », c'est que la tentation n'est pas un péché. Je ne vois pas Jésus en train de dire « Heureux celui qui pêche ». Est-ce que c'est clair? Et je voudrais déjà rassurer les gens qui sont tout le temps en train de se bousiller la vie, excusez-moi le terme, avec le problème de la tentation. La tentation, ce n'est pas un péché. La tentation, c'est une épreuve. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je le dis comme il faut? Bon. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Est-ce que Jésus a été tenté? Il a été tenté comment? Comment? Oui, oui. Non, mais il a été tenté en toute chose. Je ne pense pas qu'il a été tenté. Alors, je voudrais peut-être donner une explication. Je ne pense pas que Jésus a été tenté dans certains péchés comme le nôtre. Ça serait quand même grave de penser ça. Mais il a été tenté, comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Jésus est sans péché. S'il avait commis un péché, il n'aurait pas pu nous sauver. Il n'a pas commis de péché, il a pu nous ouvrir le ciel. Il a pris un grand, grand risque maintenant. On ne se rend pas compte. Celui qui est tenté, il est dans l'épreuve. Des tentations, on en a. Dans la journée, on en a 20, 50. Combien on peut en avoir dans la journée? Qui dit mieux? Combien on peut en avoir? Allez, dites-moi. Comment? Des centaines. 20, je ne sais pas. À moins que je ne sois pas normal. Des tentations, on en a tous. Alors, regardez bien. Mes frères et sœurs, il faut comprendre. Il y a un processus, c'est biblique. Il n'y a pas besoin d'aller voir des psychiatres qui vont vous enfermer dans le passé. Je dis ça, j'aimerais l'expliquer. Je suis désolé d'avoir entamé le sujet, mais mes frères et sœurs, je crois que nous avons un Dieu qui guérit. Quand on est simple, quand on fouille dans le passé, croyez-moi, ce n'est pas bon du tout. Jacques chapitre 13, verset 1, verset 13, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun, regardez bien les verbes qui sont utilisés, mais chacun est tenté, un, quand il est attiré, deux, et amorcé, trois, par sa propre convoitise, quatre. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, cinq, enfante le péché, six, et le péché étant consommé, produit la mort, sept. Entre la tentation et la mort, il y a donc cinq étapes, cinq, qui sont progressive. La tentation, je le répète, ce n'est pas un péché. Oui, mais Jésus a dit que celui qui convoitait une femme pour la regarder, il avait déjà commis l'adultère avec elle. Jésus n'a pas dit que celui qui était tenté en regardant une femme. Et vous me suivez? Jésus a dit celui qui regardait une femme pour la convoiter. Il avait déjà commis un adultère avec elle. Il n'est pas tenté en la regardant. Ça arrive à tous les hommes d'être tenté en regardant une jolie femme. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Moi, je ne veux pas des prédications pour des cerveaux à trois étages. Moi, je veux des prédications pratiques. Venez avec moi, on va le lire. Parce que c'est important. Moi, j'ai vu des hommes qui se détruisaient leur vie à cause de la tentation. Plusieurs hommes, même ici, j'en ai vu, qui m'ont dit, Monsieur Gault, merci de me l'avoir expliqué. C'est dans Matthieu, chapitre 5. C'est dans le sermon sur la montagne, verset 28. Je m'excuse de prendre du temps. J'espère que vous acceptez ces choses, mes frères et sœurs. Il faut que ça soit pratique. Il faut que j'arrête de faire le mal. Il faut que je comprenne ce qui est le mal. Il faut que je comprenne ce que sont les épreuves, ce qui est le bien, etc. Matthieu 5, verset 27. J'ai tellement vu, moi, d'hommes se détruire leur vie à cause de ce verset qui n'était pas compris. Moi, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, j'en profite pour vous dire que la dispensation de la grâce est peut-être plus sévère que la dispensation de la loi. Je ferme la parenthèse. Mais que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il regarde une femme pour la convoiter. Il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous y êtes, hein ? Donc je regarde une femme, mais pas parce que je suis tenté en regardant une femme et que je détourne mon regard, ça c'est pas un péché. Je regarde une femme pour la convoiter, ça veut dire que je la regarde et que mon esprit commence à calculer comment je pourrais arriver à mes fins. C'est ça que ça veut dire. Convoiter, c'est pas la tentation. La tentation, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Il vaut mieux quand même éviter de regarder certaines choses. On sait très bien que si on va surfer, je sais pas moi, sur Internet, sur certains sites, il va s'afficher des trucs, on peut se l'éviter, etc. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, c'est comme quelqu'un qui regarderait un billet de 100 euros, là quelqu'un a oublié une liasse de 100 euros ou de 300 ou 400 euros, il l'a posé là sur la table, il n'y a personne, je regarde, mais en vérité, je l'ai déjà volé si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ? Je sais que j'attends que tout le monde soit sorti et je vais prendre ma liasse de billets. Je suis déjà un voleur, pourtant je ne l'ai pas encore volé. Mais dans ma tête, j'ai calculé comment je volerai ces billets-là. Est-ce que vous comprenez ? Je l'ai déjà volé. Tandis que je peux voir des billets, ou là, quelqu'un a oublié l'argent, bon, ben, je vais les mettre là ou les mettre dans mon bureau et je signalerai à l'église, est-ce que quelqu'un... Voilà, je ne suis pas un voleur. Quand je convoite, c'est que la tentation a amené, vous avez vu, chacun est tenté quand il est attiré. Et, coincé le troisième ? Amorcé. C'est l'image d'un poisson qui voit au loin, un asticot flotter à 30 cm du haut. Il flotte, à manger. Et bien sûr, le poisson, il est attiré parce qu'il y a quelque chose d'attirant, bien sûr. Et il s'approche, il ne voit pas l'amorce. Et il peut se faire reprendre. Si vous avez déjà pêché du poisson, vous savez que ce n'est pas parce qu'on a amorcé un poisson qu'il est gagné. Heureusement que certains se détachent là. Mais vous ne croyez pas que c'est quand même un jeu dangereux ? Pourquoi il y a tant et tant de fils prodigues ? C'est parce qu'ils se sont laissés attirer. La tentation les a attirés. L'attirance les a amenés à ne pas capter qu'il y avait une amorce, un hameçon. Et ils se sont fait avoir. Et lorsque le péché, lorsque l'amorce est bien attachée, et bien qu'est-ce qu'il est dit ? La convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché, quand il est consommé, il produit la mort. Au début, c'est de la tentation, ce n'est pas un péché, c'est une épreuve. La convoitise, ça devient un péché. Parce que dans mon esprit, j'ai déjà décidé que j'allais faire ce qui m'intéressait. C'est l'histoire de cet argent, je ne l'ai pas encore volé, mais Dieu voit que je suis déjà un voleur, parce que j'ai calculé comment j'allais faire pour arriver à mes fins. Alors, on revient dans Matthieu. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Mais c'est simple. Regardez la solution. Franchement, je crois qu'il faut être honnête, mes frères et sœurs. Il faut être honnête. Si ton œil droit... Et pour toi, une occasion de chute. D'accord ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Demande une séance de délivrance aux anciens de l'Église ? Arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la gêne. Si vous débattez avec des trucs, je ne sais pas moi, pornographiques sur Internet, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ta main droite est pour toi, c'est pour ça que j'ai dit, écoute-toi, une occasion de chute, coupe-la. Mais alors, ne faites pas ça physiquement. Ça ne réglerait pas le problème. Ça ne réglerait pas le problème. Croyez-moi, même si vous vous arrachiez les deux yeux, ça ne réglerait pas le problème. Coupe-la, ça veut dire qu'il te faut te séparer de l'action que tu produis, etc. C'est pour ça que Jésus dit, un semeur sortit pour semer et il sema parmi les épines. Mon histoire de l'agriculteur qui sème des chardons, ça vous a fait sourire. Mes frères et sœurs, Jésus parle des cœurs qui ont des épines, des terrains, puisque notre cœur est comparé à un terrain. Et les épines, Jésus en parle, je l'ai marqué sur mes notes, ne le cherchez pas, c'est pour ne pas en oublier. Alors, j'ai mis ça où ? Mes notes. Ouais, vaut mieux pas que j'en ai, c'est pas la peine. Les épines, ce sont les soucis. Les soucis. Ailleurs, il est dit les soucis du siècle. Les plaisirs de la vie. Plaisirs de la vie. Alors que Dieu s'est béni pour tous les bienfaits. Oui, mais il faut faire la différence entre tous les bienfaits. Peut-être que vous avez de l'abondance. C'est pas les plaisirs de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que Dieu peut donner à un homme l'abondance ? Ben oui. Mais le problème, c'est quand les tentations, il est dit, les tentations, les autres convoitises, l'invasion, voilà le mot que je cherchais, c'est le mot que Jésus utilise, l'invasion des autres convoitises. Il ne faut pas convoiter. Vous pouvez désirer, il est bien dit, le dernier commandement, vous connaissez le dixième commandement ? Tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. La maison de son prochain, le bœuf, l'âne, bon peut-être aujourd'hui, il y en a qui ont des ânes ? Non, bon ben la BMW, de votre prochain. Par contre, vous pouvez dire, oh cet homme il a une jolie voiture, ah ça me ferait plaisir d'avoir la même. Est-ce que c'est la convoitise ça ? Ben non, vous voyez, il faut pas jouer dans l'idiotie et le mysticisme. Vous pouvez dire, oh t'as une jolie cuisine, j'aimerais faire la même. C'est pas de l'envie, c'est du plaisir. Mes frères et sœurs, Dieu, aujourd'hui, met devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. S'il y a des choses qui sont mauvaises, parle-en à ton Dieu, parle-en à ton Dieu. David, les gens souvent s'identifient à David, oui, moi je fais comme David, mais ils en parlent aux gens. David n'en parlait pas aux gens, il en parlait à Dieu. Ce n'est pas tout à fait pareil les psaumes. Est-ce que vous comprenez ? Alors des fois ça fait du bien, mais parlez-en avec des gens intelligents. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui ont un caractère difficile. C'est écrit qu'il y a des gens qui ont un caractère difficile. Vous n'en connaissez pas ? Ben vous avez du bol. Mais la Bible parle des gens, des maîtres, qui ont un caractère difficile. Ça peut être un maître de stage, n'est-ce pas ? Mais ça peut être aussi un patron. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a que les patrons qui ont un caractère difficile ? Ça serait quand même tiré par les cheveux de croire qu'il n'y a pas des gens parmi nous qui ont un caractère difficile, à qui on ne peut rien dire. Peut-être que vous ne vous connaissez pas, mais moi je trouve que c'est super chouette quand même. Quand dans une famille, on s'aime suffisamment, ou dans une famille spirituelle, moi je bénis Dieu pour les anciens. Franchement, toutes les fois, ils m'ont fait des reproches. Parce qu'ils m'aimaient, tu le sens quand quelqu'un t'aime. Mais vous ne croyez pas que ça vaut la peine de veiller les uns sur les autres ? Si votre femme vous dit, de toute façon, on ne peut rien te dire, moi, je pense que vous devriez peut-être y réfléchir. Si votre mari vous dit, de toute façon, je ne peux plus te parler, vous devriez peut-être, écoute, je te demande pardon. Qu'est-ce que tu as à me dire, vraiment ? Si c'est vrai, ben vous le changez. Si ce n'est pas vrai, ben ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si on vous dit, tu as menti, moi, une fois, on me l'a dit, en pastoral. Monsieur Gault, vous avez menti. Ah bon ? Eh bien, allez chercher la personne, elle a été la chercher. Et en fin de compte, ce n'était pas un mensonge, c'est un malentendu. Et imaginons que dans l'égarement, j'ai menti, sans vouloir, parce qu'il y a le péché volontaire, il y a le péché involontaire. Qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais dit, écoutez, je vous demande pardon, je me suis vraiment trompé, je m'excuse. C'est ça le bien, parce que moi j'ai envie d'avoir la bénédiction sur ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut la bénédiction sur sa vie ? On ferme les yeux, on répond. Répondez à Jésus. Écoute-toi. T'occupe pas trop des autres, et surtout de celui qui est assis à côté de toi ce matin. Toi, est-ce que tu veux la bénédiction ? La grâce, elle vient de Jésus. Je te répète, mon frère, écoute-toi. Il y a des comportements charnels, il y a des comportements qui ne sont pas des péchés, qui sont des épreuves. Mais s'ils ne sont pas gérés, de suite, ça devient des péchés qui peuvent produire la mort. Écoutez ça. Pour une fois que j'ai été clair, vraiment clair. Le péché, lorsqu'il est consommé, il produit la mort. Et la mort, le seul moyen, c'est une repentance profonde. Mon fils que voici était mort, et voici, il est revenu à la vie. Comment ? Il s'est repenti. Et il est revenu à la maison. Alors mes frères et sœurs, ne diabolisez pas tous vos comportements, ne diabolisons pas tous nos comportements charnels, humains, terrestres. C'est vrai que le diable les utilisera si on ouvre la porte, ça c'est clair. Mais au départ, c'est terrestre. Il n'y a pas besoin de délivrance. Il y a besoin d'abandonner. On a parlé du tabac, du mensonge, des paroles grossières. Eh bien, il faut demander la grâce de Dieu. Notre Père, nous voulons te bénir. Tu mets une fois de plus encore aujourd'hui devant chacun de nous la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal. Seigneur, pardonne-moi, à moi, le premier Seigneur, pour toutes les fois où mes sermons ne servaient à rien. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence que chaque sermon en 2019 soit utile et pratique. Vraiment, Seigneur. On veut, Seigneur, s'il te plaît de moi, à être un homme pratique, pour que l'Église soit prête pour le jour où tu vas revenir nous chercher et que nous ne nous mélangions pas dans du mysticisme inutile. Seigneur, s'il te plaît, fais de nous des hommes bénis, des femmes bénies, des parents bénis, et que les enfants soient au bénéfice de cette bénédiction. Tous nos enfants, Seigneur, et tous nos petits-enfants. Seigneur, je le sais, c'est toi qui bénis. Toute grâce vient de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.